Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Haggah, page 18, Daf Yudret. Bonne écoute et bon limoud.
Procédure à la moisson pendant le jour de rattrapage. Mais de Rabbi Elazar ben Yaakov, et si on n'avait que l'enseignement de Rabbi Elazar ben Yaakov, on n'aurait pas pu savoir à combien de jours le pasouk fait allusion, on aurait pu croire qu'il y a un seul jour. Kamash malan de Rabbi Elazar ben Rabbi Ushaya, c'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Ushaya, qui nous dit combien de jours il y a de rattrapage pour la fête de Shavuot. Nous avons effectivement 7 jours pour offrir le Korban Chagiga, le Korban Olat Reiya. Veresh Lakish Amar, Veresh Lakish nous l'apprend d'un autre pasouk. Le pasouk dit à propos de la fête de Shavuot, Bechag Hakatsir, et la fête de la moisson. Alors là, il interprète aussi, Ezeu Chag Shatachogeg Vekotserbo, quelle est la fête où à la fois tu fêtes et en plus tu peux procéder à la moisson, Have Omer Zeatseret. Tu diras qu'il s'agit de la fête de Shavuot, parce que ça se passe à la fête de Shavuot est à la période de la moisson. Et Mat. Alors quoi le pasouk fait allusion? À quelle période? Il est Mab Yom Tov. Si tu dis que le pasouk parle de Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de procéder à la moisson pendant Yom Tov? Et là, le Tashlumim, n'est-ce pas que le Pasouk nous parle de jours de rattrapage, et en fait le Pasouk nous parle aussi d'une fête qu'on pourrait faire en même temps que moissonner, c'est le jour de rattrapage où on peut offrir les korbanot après la fête de Shavuot. Amar Rabbi Yochanan a objecté à propos de cette interprétation, et la Me'ata Chaga Asif, si c'est comme ça, quand tu parles de la fête, où le Pasouk parle de la fête de Sukkot, c'est la fête ou de ramassage. Ezeu Chag Shesh Bo Asifa. Tu pourrais aussi interpréter de la même manière. Tu dirais donc quelle est la fête où tu peux aussi procéder au ramassage, à engranger toutes les moissons, toutes les récoltes. Have Omer de Chag Asukot. Tu diras que c'est la fête de Sukkot. Ilema. Emat. Alors quand le pasuk fait allusion. Ilema Yom Tov. Si tu veux dire que le pasuk parle de Yom Tov, Melach Rabbi Yom Tov Mishare. Est-ce qu'on a le droit de procéder à ces travaux pendant Yom Tov? Est-ce qu'on a le droit d'engranger les récoltes pendant Yom Tov? Et là, Becholosh El Moed. Seulement tu diras que le pasuk parle de Chol HaMoed. Là-dessus, Rabbi Yochanan demande Chol HaShel Moed Mishare. Est-ce que pendant Chol HaMoed on a le droit de procéder à l'engrangement des récoltes? Donc finalement, selon l'interprétation de Resh Lakish, le terme de Chag HaAsif ne veut rien dire. Et là, seulement tu seras obligé de comprendre le pasuk différemment. On dira que le pasuk veut dire Chag HaBizman HaSifa. Il s'agit de la fête qui vient à la période de l'engrangement. Et c'est à ça que le pasouk fait allusion. Le pasouk ne veut pas nous dire qu'on a le droit d'engranger pendant la fête de Sukkot. Hachanami. Alors là aussi nous dirons la même chose à propos du terme de Chag HaKatsir. Nous dirons que cela veut dire Chag Haba Bizman Ketira. Le pasouk parle de la fête qui vient à la période de la moisson. Donc il s'agit de la fête de Shavuot qui est à la période de la moisson. Mais en fait le pasouk ne veut rien nous enseigner du tout. Nous avons fini le shiur de Chagigadaf Yudzayin.
Commençons le shiur de Chagiga Daf Yudret, à la 10e ligne du haut de la page. Nous avons vu dans le daf précédent que Rabbi Yochanan disait qu'il était impossible d'interpréter les termes de Chag HaAsif employés par la Torah pour décrire la fête de Sukkot en disant qu'il s'agissait d'une fête où on pouvait aussi engranger, parce que pendant Chol HaMoed on n'a pas le droit d'engranger. D'ailleurs, Resh Lakish, qui voulait interpréter les termes de Chag HaKatsir employés par la Torah pour décrire la fête de Shavuot, n'a pas réfuté Rabbi Yochanan sur ce point. Miklal, de Tarvay ou Sfira Lehu, de Cholosh El Moed, Asur Be'asiat Melacha. Nous pouvons donc déduire de là que soit Rabbi Yochanan, soit Resh Lakish pensent que pendant la fête de Chol HaMoed, il est interdit de faire des travaux. La Gemara demande, Menahan Emile, d'où est-ce qu'on sait que les travaux sont interdits pendant Chol HaMoed? La Gemara répond, de Tanur Rabbanan. Ce que nous avons vu dans une braïta, le pasouk dans Parashat Mishpatim qui parle de la fête de Pessah dit, Et Chag HaMatzot Tushmor, tu garderas la fête des Matzot. Le pasouk continue en disant Shivat Yamim Tochal Matzot, tu mangeras les Matzot pendant 7 jours. Nous pouvons aussi lire Et Chag HaMatzot Tishmor Shivat Yamim, ce qui nous donnera, tu garderas la fête des Matzot pendant 7 jours. Le terme de Tishmor nous laisse en sous-entendre une interdiction. L'imed al Cholosh El Moed Shasur Be'asit Melacha, ce pasouk nous enseigne que les jours de Chol HaMoed, les travaux sont interdits. Les vrais Rabbi Yoshia, ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Eno Tsarich.
Rabbi Yonatan dit, nous n'avons pas besoin de l'interprétation du pasouk.
De Kal Vachomer, nous pouvons le déduire par un raisonnement de Kal Vachomer, de la manière suivante. Uma Rishon Vishvi'i Shen Kedusha Lifne Macharem, si déjà le premier jour de la fête et le septième jour de la fête n'ont pas de jour saint qui les précède ou qui les suivent, c'est-à-dire le premier jour de la fête n'a pas de jour saint qui le précède, le septième jour de la fête n'a pas de jour saint qui le suit, quand même Asur Be'asiat Melacha. Les travaux sont quand même interdits, donc le premier et le septième jour de la fête de Pessah. Cholosh el Moed, Shiyesh Kedusha Lefne Melacha ou Lacharem, les jours de Chol HaMoed où il y a des jours saints qui les précèdent et qui les suivent. En d'autres termes, les jours de Chol HaMoed sont compris entre deux jours de fête, donc deux jours saints. Enodin Shiyeh Asur Be'asiat Melacha, n'est-il pas évident que les travaux seront interdits ces jours-là? La Braïta réfute ce raisonnement en disant nous pourrons prouver des six jours de la création, il s'agit donc des six jours de la semaine, où il y a des jours saints qui les précèdent et qui les suivent. En d'autres termes, les jours de la semaine sont compris entre deux jours de Shabbat. Quand même, les travaux sont permis les jours de semaine. Alors, nous ne pourrons pas prouver que les jours de Chol HaMoed, les travaux seront interdits. La Gemara repousse cette réfutation en disant « Maléchechet yemeh bereshit shen baem korban moussaf » « Comment est-ce que tu peux me prouver des six jours de la semaine où on n'offre pas de korban moussaf ?»« Thomas b'cholosh el moed shesh bo korban moussaf » « Est-ce que tu pourras me dire que ce sera la même, l'alakha sera la même pour les jours de Chol HaMoed où un korban moussaf est offert ?» Donc finalement, il y a quand même une sainteté ce jour de Chol HaMoed. Il y a une raison aussi d'interdire les travaux. La Braïta réfute une deuxième fois ce raisonnement, en disant « Rosh Chodesh Ochiach », nous pourrons prouver de la fête du jour de Rosh Chodesh, « Shesh Bo Korban Moussaf », où finalement nous offrons un Korban Moussaf le jour de Rosh Chodesh, « Ou Moutar Be'asiat Melacha », et quand même, les travaux sont permis. Alors nous pourrons dire la même chose pour les jours de Chol HaMoed, où nous offrons un Korban Moussaf, où quand même, les travaux seraient permis. Al-Gmara repousse, la Breita repousse cette réfutation en disant Mal Rosh Chodesh en Karoui Mikra Kodesh, comment est-ce que tu peux me prouver du jour de Rosh Chodesh où finalement ce n'est pas un jour saint, le Pasuk n'emploie pas le terme de Mikra Kodesh, une célébration sainte, pour parler de Rosh Chodesh. Thomas Bacholosh El Moed chez Karoui Mikra Kodesh, est-ce que pourras-tu dire la même chose pour les jours de Chol HaMoed où le Pasuk emploie le terme de Mikra Kodesh, célébration sainte, à propos de ces jours? Hoil ve Karoui Mikra Kodesh, puisque les jours de Chol HaMoed sont considérés comme une célébration sainte, Dinhu chez Asur Be'asiat Melacha, il serait logique d'interdire les travaux les jours de Chol HaMoed. Et cela pour trois raisons. Premièrement, parce que les jours de Chol HaMoed sont compris entre deux jours saints, entre les deux jours de Yom Tov. Deuxièmement, parce que les jours de Chol HaMoed, un korban moussaf est offert. Troisième raison, parce que les jours de Chol HaMoed sont appelés Mikra Kodesh, célébration sainte. Tanya Idach, il a été enseigné dans une autre Braïta. Le pasouk dit à propos de la fête de Sukkot, Kol melechet avodah lo ta'asu, vous ne ferez pas de travaux, il s'agit de la fête Yom Tov. Le pasouk continue, enfin le prochain pasouk dit, Shivat yamim takribu ishel Hashem, pendant 7 jours vous offrirez un korban pour Akash Baruch Hu. Là, puisque ce sont deux phrases qui se suivent, le pasouk peut être lu de la manière suivante, Kol melechet avodah lo ta'asu, Shivat yamim, vous ne ferez pas de travaux pendant 7 jours. Limed al cholosh el moed, she asur be'asiat melacha, ce pasouk nous apprend que les jours de Chol HaMoed, il est interdit de faire des travaux. D'ivrei Rabbi Yossi Haglili. Rabbi Akiva Omer, Eno Tzarir. On n'a pas besoin de l'interprétation de ce pasouk, parce que nous voyons un autre pasouk, toujours à propos de la fête de Sukkot. Le pasouk conclut en disant, Hare Hu Omer, voici que le pasouk dit, Ele Moade Hashem, voici les fêtes d'Akash Baruch Hu. Le pasouk continue en disant, Asher Tikreu Otam Mikra Kodesh, que vous appellerez célébration sainte. Nous appelons par célébration sainte une interdiction de faire les travaux. Alors, Rabbi Akiva interprète en disant de la manière suivante. De quel jour de fête le Pasuk parle? Im Barishon, si le Pasuk va nous parler des premiers jours de la fête de Sukkot, du premier jour de la fête de Sukkot, Harikvan et Mashabaton. Le Pasuk nous dit clairement que le premier jour de Sukkot est un jour d'arrêt de travail. En effet aussi, dans le pasouk la tête, le pasouk écrit clairement Bayom Rishon Shabbaton. La suite doit être lue selon le Rach et Rabbi Hananel et beaucoup d'autres mefarshim. Il faut lire Im Bashmini. Si le pasouk voulait nous parler de la huitième jour de la fête, donc Shmini Atzeret, Harekvar Neema Shabbaton, voici aussi que toujours dans le pasouk la tête, le pasouk dit clairement qu'il s'agit d'un jour d'arrêt de travail. Le pasouk emploie le terme de Shabbaton. Ha Ena Katuv Medaber Ela Bcholosh El Moed. Il nous reste donc qu'à dire que le pasouk nous parle des jours de Chol HaMoed et la Melchash Asur Be'asiat Melacha pour nous enseigner que ces jours sont interdits, les travaux sont interdits. Tanya Idar, il a été enseigné dans une autre breka. Le pasouk dans Devarim
qui nous parle de la fête de Pessah, dit Sheshet Yamim Tochal Matzot, pendant 7 jours tu mangeras des Matzot, ou Bayom HaShvi'i Atzeret Lashem, et le 7e jour sera un jour de restriction pour Akosh Baruch Hu.
Puisque, comme l'explique le Tour Eben, le Passouk emploie un Vav, quand le Passouk dit ou Bayom HaShvi'i Atzeret Lashem, nous emploierons ce Vav comme une liaison entre les deux parties du Passouk, comme ce que la Gemara dit par ailleurs, Vav Mosifalinan Rishon, c'est-à-dire que la fin du Passouk est un complément au début du Passouk. Et par conséquent, nous dirons, Mashvi Yatsur, de la même manière que pour le 7e jour de la fête, il y a une restriction de travaux, comme nous l'avons expliqué, Av Sheshet Yamim Atsurim, nous dirons la même chose pour les 6 premiers jours de la fête, il y a aussi une restriction de travail. I, la Braïta continue, I Mashvi Atsur Bechol Melacha. Si nous poursuivons cet ordre d'idée, nous pourrions dire aussi que de la même manière que le 7e jour de la fête, donc le jour de Yom Tov, est restreint à propos de tous les travaux, nous dirons la même chose que pour les 6 jours, les 6 premiers jours de la fête, donc les jours de Chol HaMoed inclus, il y a aussi une restriction à propos de tous les travaux. Talmud Lomar, c'est pourquoi le Passouk nous enseigne, « Ubayom HaShvi'i Atzeret », le 7e jour, il y aura une restriction. Le Tosfot, au début de Maseret Moed Katan, explique que le Passouk emploie un « He » qui est en fait un « Miout », pour nous dire que c'est à propos du 7e jour qu'il y a une restriction de travail. Et nous dirons donc que « HaShvi'i Atzur B'chol Melacha » à propos du 7e jour, il y a une restriction à propos de tous les travaux. Ve'en shisha yamim atzurim b'chol melacha. Par contre, les 6 premiers jours de la fête, il n'y a pas de restriction à propos de tous les travaux. Donc, puisque nous avons une contradiction entre les différentes interprétations du pasouk, d'une part, nous voyons que nous lions la première partie du pasouk, la dernière partie du pasouk, nous apprenons que les travaux sont interdits pendant Chol HaMoed. D'un autre côté, nous avons un miout pour nous dire que tous les travaux ne sont pas interdits pendant les jours de Chol HaMoed. Halo masra la katuv elal chachamim. Nous dirons que la Torah a transmis l'interprétation de ce pasouk au Talmid Chachamim, au sage du temps de la Gemara. L'omar lecha ezeyom asur ve ezeyom mutar. C'est les Chachamim représentés par les tribunaux qui fixent le calendrier en fonction de l'apparition de la nouvelle lune et les autres facteurs qui sont pris en compte pour gérer ce calendrier. Ils te diront quel est le jour qui est interdit de faire les travaux, donc quel jour sera le Yom Tov, parce que le Yom Tov est fixé en fonction du calendrier, et quel est le jour où les travaux sont permis, ou une partie des travaux sont permis, par exemple, Chol HaMoed, où une partie des travaux sont permis. Et à part ça, Ezu Malacha Asura, quels seront les travaux interdits pendant Chol HaMoed, et Ezu Malacha Muteret, quels seront les travaux permis pendant Chol HaMoed, notamment le travail appelé Davar Avet, c'est-à-dire un travail qui permet d'éviter une lourde perte. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui parle d'un jour de Shavuot qui tombe le Shabbat, où le jour de sacrifice est donc le lendemain un dimanche. Alors la Mishnah dit à ce sujet, « Mutarim Besped Vetanit », ce jour de dimanche, une logie funèbre et un jeûne sera permis, « Shelo Lekayem et Divrei Omrim Atzeret Achar Shabbat », pour ne pas encourager les Sadducéens qui avaient l'habitude de dire que le jour de Shavuot tombe toujours à Shabbat. La Gemara demande, d'Atania, voici qu'il est écrit dans une braïta, Maase Umet Alexa Beloud. Il y a une histoire où un certain Alexa est décédé dans la ville de Loud. Il s'agissait apparemment d'une personnalité importante. Vinichnesu Kol Israël Sovdo, et tous les Bnei Israël sont rentrés pour écouter les élogies funèbres. Veloïnicham Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon ne les a pas laissé faire d'élogies funèbres. Mipnesh Yom Tov Shel Atzeret Haya, parce que c'était le jour de Shavuot. La Gemara demande, Yom Tov Sal Kadatar, est-il possible de concevoir que cette histoire s'est passée vraiment un jour de Yom Tov? Ibi Yom Tov Mikatu, est-il possible que les gens soient venus écouter des élogies funèbres pendant Yom Tov? Les gens savent très bien qu'on ne peut pas faire d'élogies funèbres, même si on peut enterrer quelqu'un, dans certains cas, par un goy, mais en tout cas, on ne peut pas faire d'élogies funèbres pendant Yom Tov. Et là, c'est pourquoi nous serons obligés de dire que Emma Mipnesh et Yom Tevu Achaya. Nous serons obligés d'interpréter la Breita, comme voulant dire qu'il s'agissait du jour du sacrifice public de Shavuot, donc c'est-à-dire le lendemain de Shavuot. Nous voyons bien que le lendemain de Shavuot, qui est le jour du sacrifice public, on ne peut pas faire d'élogie funèbre. Comment se fait-il donc que la Mishnah permet les élogies funèbres le lendemain de Shavuot? La Gemara répond, la kasha, ce n'est pas une contradiction. Kan, biyom tov shechaliot achar Shabbat, dans la Braïta, où Rabbi Tarfon n'a pas laissé faire d'élogie funèbre le lendemain de Shavuot, il s'agissait d'un jour de Yom Tov, donc de Shavuot qui n'est pas tombé à Shabbat, mais un autre jour de la semaine. Et par conséquent, il n'y a pas lieu de permettre l'élogie funèbre à un jour de sacrifice public. Kan, Yom Tov, Shechal, Liot, Beshabbat. Par contre, dans la Mishnah, il s'agit de Shavuot qui tombe un Shabbat, donc le jour de sacrifice public tombe un dimanche. Les Chachamim, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, ont voulu décourager les Sadducéens qui avaient l'habitude de dire que le Shavuot tombe toujours un dimanche. C'est pourquoi les Chachamim ont permis les élogies. Nous tournons la page à Daf Yutret Amoud Bet. Les lois de Touma Vetahara.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Pourquoi les Chachamim ont permis les élogies. Nous tournons la page à Daf Yutret Amoud Bet. Les lois de Touma Vetahara, de pureté et d'impureté, étant très compliquées et difficiles à observer, les Chachamim ont décrété que tout Am Haaretz, c'est-à-dire toute personne qui ne serait pas engagée expressément à observer les lois de pureté et tout ce qui lui appartient, est considéré comme étant impur. Néanmoins, à la période des fêtes, les Chachamim ont levé ce décret pour éviter des dissensions dans le Klal Israël, à l'époque où tout le monde venait en pèlerinage à la ville de Yerushalayim, comme ce sera expliqué plus loin à la fin du troisième pérek. C'est pourquoi les Chachamim nous parlent ici, jusqu'à la fin de la Massechet, de certaines lois de pureté qui ont un lien direct ou indirect avec la fête. Nous allons donc faire une courte introduction à propos de ces lois. En premier lieu, il y a ce que les Chachamim appellent Avatuma, nous l'appellerons source d'impureté. C'est toute chose qui transmet la Touma, c'est-à-dire par exemple un cadavre d'un reptile ou d'un animal, ou une personne étant devenue Zav par un écoulement non spermal, ou bien une femme en période de menstruation, et celui qui aurait eu le contact avec un mort. Tout cela sont considérés comme étant source d'impureté. Nous dirons, entre parenthèses, que le mort a une Touma, une impureté beaucoup plus grave, ce qu'on appelle Avi Avot HaTouma, ou nous appellerons ça source primaire de Touma, parce que le mort peut transmettre la Touma à un homme ou un objet, de manière à ce que cet homme ou objet devienne eux-mêmes Avatouma, source d'impureté. En tout cas, donc, nous revenons à la source de Touma, Avatouma, transmet la Touma à un homme, un objet, à la nourriture ou à la boisson, qui deviennent, eux, à leur tour, d'une impureté de premier degré, ce qu'on appelle Rishon Latouma. Alors, tout ce qui est impur au premier degré, donc ce qu'on appelle Rishon Latouma, ne peut transmettre l'impureté qu'à de la nourriture ou du liquide. Eux deviennent, reçoivent la Touma au second degré, et puis ainsi de suite, jusqu'au troisième, quatrième, etc. Pour l'homme et pour les différents ustensiles, quand ils voudront se purifier, ils devront se tremper dans un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, sauf pour celui qui a eu un contact avec un mort, ou au préalable, il devra passer une période de 7 jours, où le troisième et le septième jour, on aspergera sur lui de l'eau contenant de la cendre provenant de la vache rousse. Pour les ustensiles en terre cuite, ou pour les aliments, il n'y a pas de purification possible. Pour les liquides non plus, sauf pour l'eau, où elle peut être mise en contact avec le bain rituel, à ce moment-là, elle sera considérée comme pure. Il y a aussi plusieurs degrés de sainteté pour lesquels les lois de Touma varieront, c'est-à-dire plus l'objet est considéré comme kadosh, saint, plus les lois de Touma seront graves. C'est-à-dire, s'il s'agit de nourriture ou d'objets concernant la nourriture ordinaire, ce qu'on appelle choulin, ou bien ce qui concerne le maaser sheni, c'est-à-dire la deuxième dîme prélevée qui devait être consommée dans la ville d'Yerushalayim, la Touma ne peut aller que jusqu'au second degré. C'est-à-dire au-delà du second degré, il n'y a plus d'impureté, la Touma n'est pas transmise. Par conséquent, nous considérons donc ce qui est impur au premier degré, donc Rishon la Touma, c'est considéré comme impur. Par contre, ce qui est impur au second degré est appelé Pasoul, c'est-à-dire impropre à la consommation, mais en fait, ce chenil la Touma ne transmet pas la Touma. Autre point aussi, pour ce qui est Choulin et Maaser Sheni, dès qu'on se purifie dans un bain rituel, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la journée pour être considéré comme pur. Le degré au-dessus, c'est la Touma, ce qui est prélevé pour donner au Kohanim. Là, la Touma va jusqu'au troisième degré. C'est-à-dire le deuxième degré est encore considéré comme impur. Le troisième degré est appelé Pasoul. Deuxième point, pour consommer la Touma, il faut attendre la tombée de la nuit pour après s'être immersé dans un bain rituel. On ne peut pas consommer tout de suite la Touma. Le troisième degré, c'est le Kodashim, c'est la viande du Korban ou tous les ustensiles qui le servent. Là, la Touma va jusqu'au quatrième degré. c'est-à-dire donc le troisième degré est considéré comme étant impur, le quatrième degré est considéré comme pasoul, impropre à la consommation. Deuxième point, pour consommer les korbanot, non seulement il faut attendre la tombée de la nuit après s'être trempé dans un bain rituel, mais pour certaines sortes d'impuretés, par exemple le zav, ou une femme qui a mis au monde un enfant, qui doivent offrir un korban à la suite de leur période d'impureté, ils ne peuvent consommer les korbanot qu'après avoir offert ce korban. Bien entendu, cela va de soi qu'il n'y a pas d'impureté partielle, c'est-à-dire un objet ou un homme étant devenu impur par le contact de quelque chose d'impur, il est entièrement devenu impur. Tout cela, ce sont les lois Minatora. Les Chachamim ont fait quelques décrets, notamment que les liquides peuvent transmettre la Touma aux ustensiles, bien qu'il s'agisse d'une Touma de premier degré, ils peuvent quand même transmettre la Touma à un ustensile. Par contre, ils n'ont pas été aussi stricts que les lois de la Torah. Et dans certains cas, cet ustensile ne sera que partiellement impur, comme ce sera décrit au début du troisième pérek. Autre chose que les Chachamim ont décrété, c'est qu'une personne ayant eu contact avec quelque chose qui est impur au premier degré, alors là, le corps de la personne ne devient pas impur. Par contre, les mains de cette personne deviendront impures. Donc là aussi, nous voyons une impureté partielle, Midrabanan. D'autre part, les Chachamim ont décrété que les mains qui auraient touché un Sefer Torah directement, ces mains deviendraient aussi impures au second degré. Les Chachamim ont décrété cette impureté pour ne pas que les gens viennent à entreposer la Trouma ou les choses saintes dans leur Arona Kodesh avec le Sefer Torah, et à ce moment-là, des rongeurs viendraient endommager le Sefer Torah. En plus, les Chachamim ont décrété que les mains auxquelles on n'aurait pas fait attention de les garder propres seront considérées aussi comme impures, et cela parce que Rashi l'explique dans Shabbat, Dafud Dalet, que les mains habituellement touchent un peu n'importe quoi, et les Chachamim ont voulu qu'on ne touche pas de la Trouma ou des choses saintes avec des mains sales. Par conséquent, cette Trouma et cette chose sainte pourraient devenir impropres à la consommation. C'est pourquoi les Chachamim ont décrété que les mains soient toujours impures avant qu'on ne les lave. Nous commençons donc la Mishnah. Notlim layadaim. Il faut se laver les mains avec un ustensile contenant un revit, un quart de loug d'eau, soit à peu près 15 centilitres. La choulin, pour consommer de la nourriture ordinaire, ou le maaser, ou bien pour consommer du maaser sheni. Vela truma, ou bien pour même toucher de la truma. Vela kodesh matbilim. Par contre, si on veut manger de la viande d'un korban, par exemple quelqu'un qui veut manger du shlamim, ou un kohen qui mangerait de la viande d'un korban khatat ou hacham, matbilim, il devra tremper ses mains dans un mikvé. Vela khatat. Et s'il s'agit de toucher de l'eau qui contient de la cendre provenant de la paradouma, im nitmo yadav, nitmagou. Si ses mains se sont rendues impures par le contact avec quelque chose qui les rend impures, midrabanan, comme on l'a expliqué plus haut, nitmagoufo, tout son corps est considéré comme étant impur, il devra par conséquent se tremper entièrement dans un mikvé. Par contre, s'il n'a pas touché quelque chose qui rend ses mains impures, donc il s'agit de mains toutes simples, qui sont sales, il lui suffira de se laver les mains. Comme nous l'avons expliqué plus haut, plus nous montons dans un degré de sainteté, il faut les halakhot de Touma sont rigoureuses, il faut par conséquent faire beaucoup plus attention à surveiller ces choses saintes qu'elles ne deviennent pas impures. Les Chachamim ont même interdit de détourner son attention de la surveillance de ces objets. Et par conséquent, la Mishnah nous enseigne Taval la Choulin, quelqu'un qui se serait trempé dans un mikvé pour consommer ou pour toucher de la nourriture ordinaire, pour Zak la Choulin, il avait dans l'intention de se rendre pur pour de la nourriture ordinaire, assur le maaser, il n'aura pas le droit de toucher ou de consommer du maaser sheni. Taval le maaser, s'il s'est trempé dans un mikvé pour consommer ou pour toucher du maaser sheni, pour Zak le maaser, il a eu donc l'intention de se purifier pour toucher ou pour consommer du maaser sheni, assur le truma, il n'aura pas le droit de consommer de la truma ou de la toucher, il sera toujours considéré comme étant impur. Taval la truma, s'il s'est purifié pour consommer ou pour toucher de la truma, hurzak la truma, s'il a eu dans l'intention donc de se purifier pour toucher ou pour consommer de la truma, assur la kodesh, il n'aura pas le droit de toucher de la viande provenant d'un korban, il sera toujours considéré comme étant impur. Taval la kodesh, s'il s'est purifié pour manger ou pour toucher de la viande d'un korban, hurzak la kodesh, et il a donc l'intention de se purifier pour toucher le korban, assur la khatat, il n'aura pas le droit de toucher de l'eau contenant de la cendre de paradouma. Taval la chamour. S'il s'est trempé, s'est purifié donc dans l'intention de toucher ou de consommer, selon le cas, l'objet dont le degré de sainteté est le plus fort. Moutar la kal, il pourra aussi toucher ou consommer l'objet dont le degré de sainteté est plus faible. Taval velourzak, par contre, s'il s'est trempé dans un mikvé, mais n'a pas eu l'intention de se purifier, il n'avait pas l'intention de se purifier pour quoi que ce soit, kelulo taval, il sera considéré comme quelqu'un qui ne s'est pas du tout purifié dans un mikvé. Bien que nous avons expliqué plus haut que le Amaharet est considéré comme étant impur, il ne sera pas considéré comme quelqu'un qui est Zav, donc source d'impureté, comme nous l'avons expliqué. Par contre, Bigde Amaharet, les habits du Amaharet, Midras le Prushim, se considèrent comme ayant la Touma de Midras pour ceux qui font attention à manger leur nourriture ordinaire avec pureté. Le Midras est une Touma, c'est une source d'impureté qui est causée par le fait qu'une personne qui est Zav, ou par exemple une femme en période de menstruation, qui s'appuierait ou qui s'assoirait sur un lit ou un drap ou tout ce qui sert à s'asseoir dessus, alors cet objet devient ce qu'on appelle Midras, et c'est une source d'impureté, ça devient donc Avatouma. Alors, dans l'autre cas, bien que nous n'ayons pas à décréter sur le Amaharet, comme l'explique le Tosfot dans Chulin Daf Lamedhe, qu'il soit une source de Touma, mais nous craignons que par inadvertance, sa femme, en période de menstruation, se soit assise sur cet habit, et à ce moment-là, cet habit est une source de Touma, puisqu'il a cette Touma de Midras. Bigde Purushim, les habits de ceux qui font attention de manger leur nourriture ordinaire avec pureté, Midras, l'or, les Touma sont quand même considérés comme ayant cette Touma de Midras, pour ceux qui mangent de la Touma, là, puisque nous sommes montés en degré de sainteté, les Chachamim ont été plus rigoureux, et ils sont allés jusqu'à craindre que, par inadvertance, sans la connaissance de cette personne qui finalement fait attention à la pureté, sa femme en période de menstruation se soit assise sur ses habits. Bigde Ochle Touma, Midras la Kodesh. Les habits de ceux qui mangent la Touma, donc des Kohanim, sont considérés comme étant Midras pour ceux qui mangent la viande du Korban. Là aussi, nous sommes montés en degré de sainteté. Les Chachamim ont été encore plus rigoureux et on craint jusqu'à que, par inadvertance, la femme donc de ce Kohen qui mange la Touma se soit assise par inadvertance en période de menstruation. Bigde Kodesh, Midras, Lechatat. Les habits de ceux qui mangent le Korban sont considérés comme ayant la Touma de Midras pour ceux qui s'occupent de la cendre de Paradouma et de ceux qui aspergent cette eau, l'eau contenant cette cendre de Paradouma. La Mishnah cite à titre d'exemple Yosef ben Yoezer, Haya Chassid Shebekouna. Yosef ben Yoezer, qui était d'ailleurs un des chefs spirituels des Bnei Israël à l'époque, comme ça a été cité plus haut dans ce Perek, il était aussi un des plus pieux parmi les Kohanim. Il faisait donc certainement attention à ce que tous ses habits restent purs pour pouvoir manger de la Touma. Quand même, les Chachamim n'ont pas fait de différence. Vahayita, Midparto, Midras, le Kodesh, et sa serviette était considérée comme ayant cette Touma de Midras pour ceux qui mangeaient de la viande du Korban. Yochanan ben Kudgeda, qui était encore plus scrupuleux à propos des halachot de Touma, Haya Ochel Atarat HaKodesh Kol Yamav. Il mangeait sa nourriture ordinaire, mais en ayant l'intention que ce soit de la viande de Korban. Il faisait donc très attention à la pureté de cette nourriture. Il faisait attention que même une Touma de 4e degré n'atteigne pas cette nourriture. Quand même, les Chachamim n'ont pas fait de différence. Vaïta Midparto Midras Lechatat. Et sa serviette était considérée comme ayant la Touma de Midras pour tous ceux qui s'occupaient de la Paradouma ou de ceux qui aspergeaient l'eau contenant de la cendre de Paradouma. La Gemara demande Choulin ou Maaser Mibaun Utilat Yadaim, est-ce que pour manger de la nourriture ordinaire ou du Maaser Sheni, est-ce qu'on a besoin de se laver les mains? Vramin hi, voici qu'on voit une Mishnah qui dit le contraire. Hatruma va Bikurim, donc à propos de la Truma ou bien les Bikurim, qui ont la même Kudusha que la Truma, Chayavim Alehem Mita, si une personne étrangère au service, donc qui n'est pas Kohen, en mange, il est passible de la peine de mort par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Vechomesh, et s'il mange de la Truma, il devra payer en plus de la contre-valeur de la Touma ou de ses Bikurim, il doit ajouter encore un cinquième, 20% en plus, comme pénalité. Ve'asur les Arim, et cette Touma ou ses Bikurim sont interdits pour ceux qui ne sont pas Kohen. C'est un lota assez de les manger. La Mishnah le précise pour bien préciser la différence entre la Trouma et le Maaser Sheni, qui, à propos duquel il n'y a même pas d'interdiction minatora d'en manger. Vehen nirse kohen. Et cette Trouma et les Bikurim appartiennent aux Kohen, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter des animaux ou se même marier une femme avec. Veolim bechadumea. Si de la Trouma et des Bikurim se mélangent avec de la nourriture ordinaire, tout le mélange sera interdit jusqu'à ce qu'il y ait 100 parts de nourriture ordinaire contre une part de Trouma. À ce moment-là, en tout, cela fait 101 parts. À ce moment-là, on enlève une part qui sera considérée comme Trouma et le reste sera permis comme étant de la nourriture ordinaire. Utounim netilat yadaim. Et pour en manger ou pour toucher cette Trouma, il faut se laver les mains. Veher efshemesh. Et une personne qui est devenue impure minatora, donc en touchant une source de Trouma, il devra non seulement se tremper dans un mikvé, mais il devra attendre la tombée de la nuit pour pouvoir consommer de la Trouma. Hare elu betrouma ubikurim. Ces halakhot existent à propos de la Trouma et des bikurim. Machen kembe maaser. Par contre, pour le maaser sheni, les halakhot ne sont pas ainsi. Donc nous récapitulons. Le maaser sheni peut être mangé par n'importe qui tant que ce maaser sheni est consommé dans la ville de Yerushalayim. Donc il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas d'interdiction de l'OTAC de les manger à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Il n'y a pas non plus de lieu d'ajouter un 20% de pénalité si quelqu'un les mange. La Mishnah ne parle pas ici de quelqu'un qui rachète le Maaser Sheni, ou quand il rachète son propre Maaser Sheni, il doit ajouter un cinquième. Ici, il s'agit d'une pénalité qui n'existe pas pour le Maaser Sheni. Autre différence, le Maaser Sheni n'appartient pas à la personne qui le monte à Yerushalayim. Il ne peut pas acheter ce qu'il veut, il ne peut acheter que de la nourriture avec de l'argent de Maaser Sheni. Et si du Maaser Sheni se mélange avec de la nourriture ordinaire, on n'a pas besoin qu'il y ait 100 parts de nourriture ordinaire contre une part de Maaser Sheni. Il suffit d'avoir la majeure partie de nourriture ordinaire pour qu'on applique la formule de Bitoul et que tout soit permis. On n'a non plus pas besoin de se laver les mains pour consommer ou pour toucher le Maaser Sheni. Donc c'est ce qu'on comprend de notre Mishnah. Et en plus, après s'être purifié dans un mikvé, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Une fois qu'il s'est purifié dans un mikvé, il peut tout de suite consommer le Maaser Sheni. Donc cette Mishnah que nous venons de voir est en contradiction avec notre Mishnah qui nous enseigne qu'il faut se laver les mains avant de consommer le Maaser Sheni. Le kol sheken bechulin est à plus forte raison pour la nourriture ordinaire qu'on n'ait pas besoin de se laver les mains. Alors kashia Maaser à Maaser, nous voyons une contradiction entre les lois de Maaser Sheni ou dans cette Mishnah de Maaseret Bikurim, nous enseignons qu'on n'a pas besoin de se laver les mains, et notre Mishnah qui nous enseigne que pour le Maaser Sheni on a besoin de se laver les mains. Kashia Chulin Achulin, il y a aussi une contradiction entre les lois de la nourriture ordinaire, où nous pouvons comprendre de la Mishnah de Maaseret Bikurim qu'on n'a pas besoin de se laver les mains, et notre Mishnah qui nous enseigne qu'on a besoin de se laver les mains pour la nourriture ordinaire. Alors la Gemara continue. Bishlama Maaser Maaser la Kashia. Encore, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de contradiction entre les lois de Maaser Sheni et donc la Mishnah qui nous enseigne la loi de Maaser Sheni, parce qu'on pourrait la répondre de la manière suivante. Harabi Meir ve Harabanan. Parce qu'on pourrait dire que la Mishnah de Bikurim suit l'avis de Rabbi Meir et notre Mishnah suit l'avis de Rabbanan, d'Etnan, parce que nous voyons dans une Mishnah de Maaseret Para qui dit la chose suivante. Kol ataun biat maim midivrei sofrim. Tout ustensile ou personne qui aurait besoin de se purifier dans un mikvé minei Rabbanan. Il s'agit des choses énumérées dans Shabbat Daf Yud Gimel. Par exemple, une personne qui aurait consommé de la nourriture impure au premier ou au deuxième degré, ou bien les mains qui auraient touché quelque chose d'impur au premier degré, ou bien par exemple un ustensile qui aurait touché un liquide impur, etc. Alors tout cela se considérait comme étant impur au deuxième degré. Par conséquent, Metamet à Kodesh, il rendra la viande de Kodesh impure, c'est-à-dire impur au troisième degré. Et comme nous l'avons appris à propos de la viande de Corban, cette impureté va jusqu'au quatrième degré. Ou possède à Trouma, par contre, il rend la Trouma impropre à la consommation, parce que pour la Trouma, l'impureté ne va que jusqu'au troisième degré. Ou Moutar la Chouline Vela Maaser, par contre, il a le droit de consommer ou de toucher la nourriture ordinaire et aussi le Maaser Sheni. Dibre Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Par contre, les Chachamim interdisent de consommer le Maaser Sheni. Donc nous voyons ici que les Chachamim sont plus stricts que Rabbi Meir à propos des lois de Maaser. Nous pouvons, à la rigueur, répond cette contradiction à propos de la chôte de Maaser, Sheni, entre les deux Mishnayot, en disant que la Mishnah de Bekurim va selon l'avis de Rabbi Meir, alors que notre Mishnah va selon l'avis de Rabbanan. Et la Chulin, la Chulin. Kashia, par contre, à propos des lois de Chulin, où nous voyons une contradiction, cette contradiction reste, il n'y a pas de manière de la répondre. L'Agma répond, la Kashia, là aussi, on peut, ce n'est pas une question, on peut la répondre de la manière suivante. Kan Be'achila, dans notre Mishnah, il s'agit de consommer, de consommation. Donc, pour consommer de la nourriture de Chul, ordinaire ou de la nourriture de Maaser Sheni, il faut impérativement se laver les mains. Kan Benegia, par contre, dans la Mishnah de Bikurin, il s'agit de toucher la nourriture ordinaire ou le Maaser Sheni. Alors là-dessus, de la Mishnah, nous pouvons déduire qu'on a le droit de le faire, et c'est juste pour toucher de la Tourma qu'il faut se laver les mains. Matkifla, Rav Shimi Barashi a objecté sur cette réponse. Adkan la pligé, Rabbanan alé de Rabbi Meir, et la Achila de Maaser. Jusque-là, nous avons vu une discussion entre Chachamim et Rabbi Meir. Il ne s'agissait que de la consommation du Maaser Sheni. En effet, puisque dans Rabbi Meir, il nous tient ce langage suivant, il nous dit Moutar la Chulin vela Maaser, donc il permet pour la nourriture ordinaire et pour le Maaser, il ne dit pas Enoposel. Nous comprenons donc qu'il permet même la consommation de la nourriture ordinaire et du Maaser Sheni. Et par conséquent, nous voyons que les Chachamim qui disent Ostrim de Maaser, donc qui interdisent le Maaser Sheni, il s'agit de l'interdiction de la consommation. Donc finalement, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan ne se porte que sur la consommation du Maaser Sheni. Est-ce que est-ce qu'une personne qui est impure au second degré a le droit de consommer le Maaser Sheni ou non? Aval ben Gia de Maaser. Par contre, pour le fait de toucher le Maaser Sheni, ou Be'achila de Chulin, ou bien pour même consommer la nourriture ordinaire, la plier, il n'y a pas de discussion. Donc finalement, même si nous, à la rigueur, nous pouvons répondre la contradiction à propos de la chôte de Maaser Sheni, nous pourrons dire que notre Mishnah suivra l'avis de Chachamim pour rendre nécessaire le fait de se laver les mains pour consommer le Maaser Sheni, mais pour le Chulin, pour la nourriture ordinaire, on ne voit pas qui est-ce qui rendrait nécessaire le fait de se laver les mains. L'Agma répond, Ela idi et idi ba'achila. Nous dirons que soit dans la Mishnah de Bikurim, soit dans notre Mishnah, il s'agit de la consommation. Vela kasher, quand même, il n'y a pas de contradiction. Kan ba'achila de Nahama. Dans notre Mishnah, il s'agit de la consommation de pain. Là-dessus, les Chachamim ont été plus stricts, comme nous l'expliquerons plus loin. Et c'est pourquoi ils ont décrété qu'il faut se laver les mains, soit pour consommer du pain ordinaire, soit pour consommer du pain qui a la Gdusha de Maaser Sheni. Kan ba'achila de Pere. Par contre, dans la Mishnah de Bikurim, où nous voyons qu'on n'a pas besoin de se laver les mains pour la nourriture ordinaire et pour le Maaser Sheni, il s'agit de quelqu'un qui veut consommer des fruits ordinaires ou des fruits ayant la Gdusha de Maaser Sheni. Là-dessus, il y a une différence avec la Trouma, donc on n'a pas besoin de se laver les mains. Pour consommer même des fruits de Trouma, il faudra se laver les mains. D'ailleurs, même pour toucher de la Trouma aussi, il faudra se laver les mains. Et la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim se portera sur la consommation des fruits ayant la Gdusha de Maaser Sheni. La raison pour laquelle les Chachamim ont institué cette obligation de se laver les mains pour consommer du pain ordinaire dit de Chulin, et soit parce que, comme la Gemara dans Chulin d'Afkufav le dit, c'est pour servir de rappel pour les Kohanim qui manipulent et consomment la Trouma, les Chachamim n'ont pas été tellement regardants pour la nourriture ordinaire. C'est pourquoi pour toucher par exemple de la nourriture, les Chachamim n'ont pas institué d'obligation de se laver les mains, comme le souligne le Aruch HaShulchan dans Siman Kuf Nun Chet. Et les Chachamim ont institué cette obligation pour la consommation du pain, qui constituait la majeure partie de la Trouma, qui nous le savons était prise essentiellement sur le blé, Minatora, ou sur les céréales, et c'est à partir de ce blé donc qu'on fabriquait du pain. Voir le Beit Yosef dans Siman Kuf Nun Chet, et aussi le Mishnah Berurah sur place. Deuxième raison pour laquelle les Chachamim ont institué cette obligation, c'est comme la Gemara dans Brachot Daf Nun Gimel Amud Bet l'explique, c'est parce que les Bnei Israël sont considérés un peuple saint et sont tenus de se conduire avec un minimum de sainteté. C'est donc par souci de propreté que les Chachamim ont institué cette obligation de se laver les mains. Ils l'ont institué pour la consommation du pain qui constitue le repas consistant de la journée. Voir le Mishnah Berurah dans Siman Kufunchet, dans Shahar Atziyou. Alors l'Agmara continue, Rav Nachman, parce que Rav Nachman a dit, pour insister sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation de se laver les mains pour la consommation de fruits ordinaires, donc de choulin. Kol hanotel yadav le perot. Tout celui qui se lave les mains à titre obligatoire pour consommer des fruits ordinaires, harezé migasé avoir, cette personne est considérée comme une personne orgueilleuse parce qu'elle montre qu'elle est pointilleuse pour des halakhot finalement qui n'existent pas, puisque les chachamim n'ont pas du tout institué d'obligation de se laver les mains pour consommer les fruits. Toutefois, s'il le fait par souci de propreté ou à titre facultatif, il peut le faire. Nous avons fini le shiur de Chagiga d'Afutret. Nous commençons le shiur de Chagiga d'Afutret. Nous commençons d'Afutret à Moudbet à 5 lignes du bas de la page. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné dans une braïta. Hanotel Yadav, celui qui se lave les mains avec de l'eau qui est contenue dans un ustensile qui contient un revit d'eau, donc à peu près 15 centilitres. Nitkaven, s'il a l'intention de se purifier les mains, Yadav Tehorot, ses mains sont devenues pures. Lo Nitkaven, par contre, s'il n'a pas eu l'intention de se purifier les mains, Yadav Temeot, ses mains sont restées impures. Bechen Hamad Bil Yadav, et ainsi est la halakha pour celui qui se trempe les mains dans un mikvé. Nitkaven, s'il a l'intention de se purifier les mains, Yadav Tehorot, ses mains sont pures. Lo Nitkaven, par contre, s'il n'a pas eu l'intention de se purifier les mains, il a juste trempé pour se les laver. Yadav Temeot, ses mains sont restées impures. La Gemara demande, Vatania, voici que nous voyons dans une braïta, ben nitkaven, ben lo nitkaven, Yadav Tehorot. Soit s'il a l'intention de se purifier les mains, soit s'il n'a pas eu l'intention de se purifier les mains, ses mains sont quand même pures. La Gemara répond, Amar Rav Nachman, la kasha, ce n'est pas une question, kan le choulin. La braïta qui dit que même s'il n'a pas eu l'intention de se purifier les mains, ses mains sont pures, il s'agit de quelqu'un qui veut consommer de la nourriture, du pain ordinaire, donc de choulin. Nous passons à Daf Yutet Amud Alef. Kan le maaser. Par contre, la braïta qu'on a vue plus haut, ou qui nous dit que s'il n'a pas l'intention de se purifier les mains, ses mains sont restées impures, il s'agit de quelqu'un qui veut consommer du pain de maaser sheni.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.